Le titre du message 4, le dernier message, est le royaume et l'Église. Et une pensée fondamentale qui est le fondement de ce message est que l'Église signifie pour nous une expression pratique du corps universel et organique de Christ. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église ». Et les mots « mon Église » font référence au corps unique, universel et organique de Christ. Ensuite, au chapitre 18, le Seigneur a utilisé deux fois l'expression « l'Église ». Dites-le à l'Église. Et quelqu'un devait écouter l'Église. Donc, on dit « l'Église » et pas « une Église ». « L'Église » selon le Nouveau Testament. Dans une ville, il y a une seule Église, pas plus d'une. Voilà l'arrangement ordonné par Dieu pour la vie de l'Église. Et donc, ici, l'accent sera mis sur le royaume de Dieu et l'Église, principalement en tant qu'expression locale du corps de Christ, une véritable Église locale. Et je vous demanderai de considérer votre propre compréhension, votre sentiment et votre point de vue sur ce qu'est une église. Qu'est-ce qu'une église locale? Je crois que beaucoup d'entre nous diraient d'abord, et peut-être seulement ceci, que l'église est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. Quand je suis entré dans l'église, j'ai eu le sentiment d'être rentré chez moi. C'est là ma place. Et ceci, bien évidemment, est absolument correct. L'église est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. Elle est même appelée la maison de la foi, dans Galates 6. Et tous ceux qui sont dans l'Église sont membres de la famille de Dieu. Et donc, lorsque nous sommes dans l'Église ou dans la maison, nous sommes la demeure de Dieu avec la famille de Dieu. Mais il y a un autre aspect très important que nous devons considérer dans ce message. Une véritable église locale est le royaume de Dieu dans la pratique. Pour être encore plus bref, une église locale est le royaume de Dieu. Dans Apocalypse, qui est un livre de visions, des visions qui ont été écrites et envoyées aux églises locales. L'apôtre Jean a écrit ceci concernant Christ Jésus. Chapitre 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le gouverneur des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Il a fait de nous un royaume. Qui est le « nous » ici? Ce sont tous les saints des sept églises locales qui recevraient ce qui était écrit sur le rouleau. Et l'apôtre dit que Christ, par sa mort, sa résurrection et son ascension, a fait de nous un royaume. Les églises locales sont des royaumes. Puis, au verset 9, Jean dit quelque chose de très personnel. « Je suis Jean, votre frère, et je prends part avec vous à la tribulation, au royaume et à l'endurance en Jésus. » Là, l'apôtre Paul, Jean, il se trouve sur l'île de Patmos. C'est un homme âgé d'au moins 90 ans. Et il est là, seul. Mais le jour du Seigneur, il est en esprit. Puis, les révélations sont venues. Et c'est assez touchant qu'il n'a pas dit « Je suis Jean ». Je suis le dernier des apôtres. Hein. Vous vous rendez compte de qui il vous écrit? Je suis un apôtre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis Jean, votre frère. Votre frère. Je suis votre frère. Et je suis votre compagnon. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Je prends part à la tribulation. Je prends part au royaume. Eh bien, comment Jean vivait-il et participait-il à la vie du royaume seul sur cette île rochereuse, Patmos? Eh bien, par deux moyens. Le premier est que il vivait sous le règne de Dieu en Christ, dans sa manière de vivre. Il vivait dans la réalité du royaume. Jésus rayonnait sur lui. Mais aussi, même si physiquement, il ne pouvait pas se réunir avec les saints, intérieurement, intrinsèquement, organiquement, il savait que je suis dans le corps avec vous. Je suis dans l'Église qui est le royaume avec vous. Je crois donc que ces versets nous aident et nous préparent à considérer le cœur de ce plan, qui est une véritable église locale n'est pas seulement la demeure de Dieu, la maison de Dieu où nous nous réunissons dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans l'expérience et la jouissance du Seigneur ensemble. Nous devons également être profondément impressionnés par le fait que lorsque nous sommes dans la véritable vie d'Église, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais souligner quelque chose. Quand un enfant naît, et disons après 4 ou 5 ans, cet enfant comprend qu'il fait partie d'une famille. Il y a des parents. Et cet enfant vit dans un certain endroit dans le monde. Mais les enfants sont nés dans cette famille. Ils ne peuvent pas dire « Je veux vivre dans cette partie de la vie familiale, mais je ne suis pas intéressé par cette autre partie de la vie familiale. » Ou lorsque la famille passe des moments heureux ensemble et que nous allons dans des endroits plaisants, les enfants disent « J'aime vraiment ça. » Mais lorsque dans la vie familiale, si l'on me donne des corvées à faire, je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ça. Un enfant ne peut pas décider quels aspects de la vie familiale qu'il veut vivre. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, qu'ils entrent dans l'adolescence, et finalement aux États-Unis, je ne sais pas qui a inventé cela, mais quand ils ont 18 ans, les enfants sont officiellement de jeunes adultes. Alors ils peuvent prendre leur propre chemin et décider que je ne veux pas vivre comme mes parents. Je ne veux pas ceci ou cela. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes dans l'Église de Dieu, qui est la maison de Dieu et le royaume de Dieu. Nous n'avons aucun droit et aucune raison d'être sélectifs. Oh, j'aimerais être dans une église qui n'a que ce genre de plaisir ou autre. Mais oh, s'il vous plaît, ne parlez pas du trône, ne parlez pas de l'autorité, ou de l'obéissance, ou de la responsabilité, ou d'être un serviteur de Dieu. Et pour illustrer cela, il y a un mail qui m'a été transmis. Il s'agissait d'une sœur âgée qui envoyait cette annonce concernant deux groupes qui se réunissaient dans des maisons. Nous allons nous réunir et tout ce que nous allons faire, c'est manger et chanter. Nous n'allons pas rechercher de la vérité. Il n'y aura pas de communion mutuelle pour approvisionner et édifier les uns les autres. Ceci est la sélectivité. Oh, on ne veut pas avoir une étude sérieuse de la vérité. On ne veut pas parler de choses plus profondes. Venez, venez. Nous aurons de la bonne nourriture. Nous mangerons et chanterons, et c'est tout. Et nous passerons un bon moment en chantant. Il s'agit d'une illustration réelle. Une illustration fidèle à la réalité de quelqu'un qui sélectionne certains éléments de la vie de l'Église et en néglige d'autres. Je ne sais pas si quelqu'un dans ces groupes en avait conscience. Nous sommes dans un royaume ensemble. Nous sommes citoyens d'un royaume céleste. Nous ne pouvons pas entrer et sortir à notre guise de ce royaume. Nous sommes ici pour l'éternité. Donc, j'espère que cela sert d'une sorte de contexte ou d'ouverture à la gravité de ce message. Avec l'approvisionnement de la vie, la grâce, l'encouragement et la vision qui nous gouverne. Le royaume et l'Église. Grand point 1. La Bible présente d'abord le royaume, puis l'Église. La présence du royaume produit l'Église. La présence du royaume produit l'Église. Au début de son ministère et tout au long de celui-ci, le Seigneur Jésus a proclamé l'évangile du royaume. L'évangile de l'Église n'existe pas. Il n'y a que l'évangile du royaume. Il a dit, le Seigneur a dit, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Vous devez naître d'eau et d'esprit pour naître du royaume de Dieu. Et ensuite, ce royaume, en tant que domaine de la vie divine, produit l'Église. Que cela soit écrit sur chacun de nous. Le royaume de Dieu produit l'Église de Dieu dans son expression locale. A. La vie de Dieu est le royaume de Dieu. La vie divine est le royaume et cette vie produit l'Église. Le royaume de Dieu est donc le domaine de la vie de Dieu. Et c'est Dieu lui-même en tant que vie. Et cette vie de royaume, produit l'Église. A. Le royaume est le domaine de la vie où la vie peut se mouvoir, régner et gouverner afin d'accomplir son but. Ce domaine est le royaume. Petit 2. L'évangile apporte la vie divine. Et cette vie détient son propre domaine, qui est le royaume. La vie divine, avec son domaine, produit l'Église. Donc, on parle de la vie divine, la vie éternelle de Dieu, que nous recevons lorsque nous croyons dans le Fils de Dieu. Nous recevons cette vie. Et cette vie a un domaine. Et le domaine est le royaume. Nous ne pouvons pas séparer ces deux. Et dire que je veux seulement la vie, je ne veux pas le royaume, je veux seulement la vie. Je ne veux pas être sous la direction de quelqu'un, je veux juste la vie éternelle. Non, ces deux sont inséparables. C'est ainsi que l'Évangile nous a apporté la vie divine, et maintenant nous apprenons que cette vie a son domaine. Et que ce domaine est le royaume. Et c'est cette vie divine, le domaine, le royaume, qui produit l'Église. À chaque fois qu'une église locale est établie dans une localité, et que des saints de divers autres endroits viennent pour la première réunion de la table du Seigneur. La première table du Seigneur. L'Église est établie là et la vie divine en est la source qui coule à travers le corps dans le domaine du royaume. Or, lorsque cette Église est établie, c'est une manifestation locale dans la pratique, dans le royaume de Dieu, en tant que domaine de la vie divine. Petit 3. L'évangile du royaume fait naître l'Église parce que le royaume est la vie elle-même. Et l'Église est le produit de la vie. « que cette vérité nous imprègne, qu'elle ne nous laisse pas indifférents, comme si c'était quelque chose sans beaucoup d'importance. Ceci est important. Il s'agit d'une question importante qui concerne notre vie de l'Église et qui peut affecter, qui peut impacter le fait que nous recevions ou non la récompense du royaume. Cela a beaucoup à voir avec le genre de vie de l'Église pratique que nous avons semaine après semaine. Et je répète le point 3. L'Église du royaume engendre l'Église parce que le royaume est la vie elle-même. Et l'Église en est le résultat. Et maintenant, nous allons aller plus loin au point B. B, le royaume est la réalité de l'Église. Considérez simplement ceci, je vous en prie. C'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas une critique, hein, pas un jugement. C'est un fait. C'est un fait que dans certaines églises locales, il y a très peu de réalité. Très peu. Cela peut varier selon les expériences des saints, leur croissance dans la vie, la constitution des frères dirigeants. Mais il s'agit là d'un fait, la réalité de l'Église. Il est possible que cela se produise en divers endroits pendant que je vous parle. Une vie de l'Église locale avec très peu de réalité. Mais la réalité est le royaume. Par conséquent, en dehors de la vie du royaume, nous ne pouvons pas vivre la vie de l'Église. Oui, nous utilisons cette expression, la vie de l'Église. C'est une expression affectueuse. Mais qu'entendons-nous réellement par la vie de l'Église? Peut-être que beaucoup pensent que c'est simplement ce que nous faisons. Ce sont les réunions. Nous nous réunissons le jour du Seigneur et nous nous réunissons pour prier. Nous avons des réunions pour poursuivre la parole de Dieu, ouverte par le ministère. Nous avons un service pratique, nous prenons soin des saints de tous les âges. C'est la vie de l'Église. Eh bien, elle l'est, mais d'une manière extérieure et non intrinsèque. Nous ne pouvons donc pas vivre la vie d'Église aux yeux de Dieu si nous sommes en dehors de la vie du royaume. Je le dis ainsi, de cette manière, en appliquant ceci à nous tous. À moi en premier, je dis oui, amen. La nature de notre vie de l'Église est déterminée par la mesure de notre vie dans le royaume. Nous pouvons définir, comme je l'ai déjà mentionné, je suis dans la vie de l'Église, je suis pleinement actif dans la vie de l'Église. Il y a une sœur âgée de 77 ans et son mari a une responsabilité majeure dans l'Église. Il est très actif, très diligent, mais peut-être il lui manque la réalité. C'est une question sérieuse à considérer. Nous sommes dans le royaume. Comment pouvons-nous, dans un sens, comment osons-nous vivre dans le royaume où nous sommes par notre propre vie naturelle, en suivant tout simplement la façon dont nous voulons faire les choses, Nous sommes dans un royaume, cher saint. Lorsque vous êtes dans une église locale, vous êtes dans un royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de vie. Et il y a la loi de l'esprit de vie qui opère ici. Nous avons besoin de savoir cela dans les sous-points maintenant. Ces sous-points sont éclairants, ils sont convaincants et heureusement, ils approvisionnent. La réalité du royaume des cieux. Matthieu chapitre 5 à 7. Cette réalité est le contenu de la vie de l'Église. Nous lisons Matthieu 5, 6 et 7, qui est le contenu de la vie de l'Église. Laissez-moi donc choisir deux ou trois versets pour illustrer mon propos. Matthieu 5, 3 dit « Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, venir à une réunion de ministère, une réunion de conférence, pauvre en esprit, venir pleinement ouvert pour recevoir pleinement la parole du Seigneur d'une manière vivante. Puis, dans le même chapitre, on voit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et Matthieu 6, 33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Je voudrais juste demander, un peu à la manière d'un père, je voudrais poser une question à ceux qui ont 35 ans ou moins de 35 ans, qui sont bien éduqués, qui sont bien formés pour gagner leur vie. Pouvez-vous, honnêtement, témoigner de votre vie que vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice? D'abord. Le verset dit « Cherchez d'abord le royaume ». Et donc, nous voyons, point après point, dans ce plan, que le royaume est le contenu de la vie de l'Église. Sans la réalité du royaume, l'Église est vide. Écoutez ceci. L'Église est vide. Nous savons que dans Apocalypse 1, le Fils de l'homme se tient au milieu des chandeliers d'or. Puis, il parle à l'Église, localité par localité, en parlant aux messagers qui s'y trouvent. Le Seigneur connaît la situation et la condition de chaque Église. Et il a le droit de dire quelque chose de semblable à Laodicée. Il a dit « Tu es vide, vide ». Il est possible d'être dans une église locale vide. Et il y a, bien sûr, différents degrés. Il faut revoir cela du point de vue du royaume. Du point de vue de la maison de Dieu, nous ne sommes pas concernés de cette manière. Mais maintenant, du point de vue du royaume de Dieu, nous apprenons du ministère de l'âge, que sans la réalité du royaume, l'Église est vide. Je me demande, simplement, si dans un endroit donné, non pas en réponse à ce que dit le frère Ron, non, en réponse à ce que dit l'Esprit, je me demande, simplement, si, dans une église locale, les frères dirigeants, lorsqu'ils se réunissent dans leur réunion hebdomadaire, est-ce qu'ils s'humilient devant le Seigneur en ouvrant leur être et en demandant au Seigneur « Seigneur, quelle est ta compréhension du contenu de l'Église ici, dans cette ville ? Nous ne voulons pas être vides, nous voulons être remplis de réalité. » Si personne ne prie jamais de cette manière ou ne considère ceci, alors je peux dire devant le Seigneur, « Seigneur, par ta miséricorde et ta grâce, je parlais directement de cela. Mais je suis si triste de la réponse. » Je ne parle pas d'une réponse pour me faire sentir bien à l'égard du message. Le Seigneur sait que ce n'est pas ce que je cherche. Je suis là pour la réalité du royaume dans toutes les églises. Petit 2. Puisque la vie du royaume produit la vie de l'église, lorsque nous vivons collectivement dans la vie du royaume, nous vivons spontanément la vie de l'Église. Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Devrions donc considérer ceci devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que je vis? Est-ce que nous vivons collectivement dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit? Si c'est le cas, nous vivons spontanément la vie d'Église. Je dirais que si nous vivons la vie d'Église, telle que je l'ai définie plus tôt, juste une série d'activités extérieures pratiques, des réunions, des services, des visites, des choses de ce type, si nous avons simplement ce genre de vie de l'Église, aux yeux de Dieu, nous n'avons peut-être pas la réalité, parce que nous avons besoin de vivre corporativement, dans la vie du royaume, corporativement. Tout ce qui est dit dans Matthieu 5 et 7 s'adresse à nous directement, nous qui sommes nés de l'Esprit, qui avons été dans le royaume de Dieu, qui sommes dans le royaume de Dieu. Et c'est la vie du royaume qui est Christ lui-même qui vit en nous. Encore une fois, il vit en nous. Nous devons vivre cette vie du royaume collectivement. Alors le Seigneur pourra dire, même à l'ennemi, « Voici la vie de l'Église. Regarde bien, Satan. Il n'y a rien dont tu puisses te moquer. C'est la vie de l'Église. Les saints vivent la vie du royaume corporativement. » Petit 3. Un croyant qui ne vit pas dans la réalité du royaume ne peut pas être édifié dans la structure de l'Église. Alors, maintenant, c'est une affaire personnelle. Un croyant qui ne vit pas dans la réalité du royaume. Et nous ne disons pas qu'il est mondain, non. Peut-être ce frère ou cette sœur est très intègre est consciente de ses actes à bien des égards, mais il ou elle ne vit pas dans la réalité du royaume. Cette personne ne peut pas être édifiée dans la structure de l'Église. Et je ne vise personne. Je ne vise personne, mais je m'identifie à beaucoup de saints plus expérimentés. Nous pouvons, honnêtement, témoigner sans jugement, sans condamnation, que ce cher frère ou cette chère sœur a été ici si longtemps, mais il ou elle n'a jamais été édifié dans la structure de l'Église. Et il y a une situation dont je suis parfaitement au courant. Un cher frère a été emmené pour être avec le Seigneur il y a des années. Et ce frère, pour ainsi dire, avait un pied dans la vie de l'Église et un autre pied dans la chrétienté religieuse. Il faisait des allers-retours. Et quand, de manière inattendue, sa vie a pris fin et que nous l'avons honoré en nous rassemblant près de la tombe, près de sa tombe, nous l'aimions, ce frère, nous l'aimions, nous apprécions sa portion. Mais un frère avec une bonne intention a soudainement déclaré. Il a dit, celui-là était un vainqueur. Et à l'intérieur de moi, il y avait juste un ressenti qu'il ferait mieux de ne pas dire cela. Seul le Seigneur le sait. Après toutes ces années, il y a toujours de l'amour pour lui. Pas de jugement. Mais il n'a jamais été édifié. Il n'a jamais été édifié dans le corps. Combien d'années ? Presque 40 ans. Il n'a pas été édifié dans le corps. Mes chers frères et sœurs, qu'allons-nous faire avec des points de vérité comme celui-ci ? Il y a un fardeau très particulier et un sentiment du Seigneur, de mon être intérieur. Je vous en témoigne par la grâce du Seigneur. J'ai personnellement faim et soif de la réalité. Dans ma vie chrétienne, dans ma vie d'église et dans toutes les églises. Et cette réalité, c'est la vie du royaume, vécue personnellement et collectivement. Et alors ? Nous pouvons être édifiés dans le corps. C'est sans le royaume comme la réalité de l'Église, l'Église ne peut pas être bâtie. Il y a des églises locales. Nous ne savons pas quel en sera le résultat. Nous ne pouvons pas le savoir, mais à l'heure actuelle, ces églises ne sont pas bâties. À partir des frères dirigeants jusqu'à tous les membres, ces églises ne sont pas bâties. Elles se réunissent. Elles sont actives. Elles prêchent l'Évangile. Elles s'efforcent de faire connaître la vérité. Elles prient, elles servent. Elles prennent soin les uns des autres. Oui, toutes ces actions sont nécessaires. Mais nous savons d'après Éphésiens 2, 22, que Paul a dit que vous aussi, vous êtes en train d'être édifiée pour devenir une demeure de Dieu. Édifiée. Est-ce quelqu'un porte une responsabilité à cet égard, ou peut-être à une sœur, dans son cœur et dans sa prière, porte cette responsabilité? Quelqu'un se demande-t-il si nous sommes en train d'être édifiés ici? Nous sommes ici depuis tant d'années. Y a-t-il l'édification? Sommes-nous vraiment en train de nous édifier? Alors les frères dirigeants demandent au Seigneur, « Seigneur, sommes-nous en train de nous édifier ?» Peut-être que le Seigneur pourrait les guider en leur disant « Cherchez la communion, cherchez la communion. Vous savez qui vous pouvez chercher pour la communion. Soumettez simplement la question à la communion du corps et vous recevrez la lumière dont vous avez besoin. Il nous faut être édifiés. » Petit 1. L'Église vient en existence par l'autorité du royaume. L'autorité est dans la vie. Le fleuve d'eau de la vie a pour source le trône. Oui, la vie est la réalité du royaume. Mais la source de la vie est le trône. Et évidemment, on fait référence à l'autorité. L'autorité du royaume. C'est là que, tout au long de notre histoire, les saints ont cessé d'avancer. Les saints n'aiment pas être sous une autorité. Et ici, nous parlons de l'autorité du royaume, pas d'une personne présomptueuse qui revendique l'autorité. L'autorité du royaume. Sommes-nous tous au clair à ce sujet? Est-ce réel pour nous? Petit 2. Les clés du royaume sont données pour rendre possible l'édification de l'Église. Tôt ou tard, nous devons apprendre. Quelles sont les clés du royaume? Comment les utiliser? Les yeux du Seigneur sont partout maintenant. Il voit tout. Il sait dans quelle localité les saints utilisent les clés du royaume. Notamment dans leur prière, dans Matthieu 18, pour lier ce qui a été lié dans le ciel, pour délier ce qui a été délié dans le ciel. Petit 3. Lorsque le royaume des cieux est en mesure d'affirmer son autorité sur un groupe de croyants, ces croyants peuvent être édifiés dans l'Église. Permettez-moi de répéter. Lorsque le royaume des cieux est en mesure d'affirmer son autorité sur un groupe de croyants, est en mesure. Qu'est-ce que cela signifie? En mesure. Le royaume des cieux, avec son autorité, n'est-il pas capable, en mesure, de faire n'importe quelle chose? Eh bien, il y a un principe. Dieu a besoin de notre coopération. Il a besoin que nous nous tournions vers lui, que nous nous ouvrions à lui, que nous suivions sa conduite et que nous soyons sous sa direction et nous saurons déterminer dans quelle mesure le royaume des cieux peut affirmer son autorité sur nous. Dans cette réunion de maison, mentionnée plus tôt, annoncée par une sœur, très intéressant d'ailleurs, ou plutôt significatif, que ce ne soit pas un frère, mais pas un frère responsable qui a annoncé cette réunion. C'était une sœur. Le Seigneur sait si cette réunion était sous l'autorité du royaume des cieux. Non, ils disent « Non, nous ne voulons pas avoir une réunion sérieuse. Nous ne voulons pas entrer dans des vérités profondes. Nous voulons juste manger et chanter. C'est notre vie d'église. Mais ce n'est pas une vie d'église dans le royaume. » Ce que le Seigneur recherche, c'est la possibilité d'affirmer son autorité sur un groupe des croyants. Ainsi, le Seigneur regarde l'église A ou l'église Y, peu importe. Et quelle joie c'est pour lui de voir que dans cette ville, il y a un groupe des croyants et que la voie est ouverte pour que le Seigneur puisse affirmer l'autorité du royaume des cieux sur eux. Ils savent comment je le fais, par la lumière qui brille, par la vie qui coule, par l'amour qui imprègne. Ils savent. Maintenant, je suis capable de les voir s'édifier. Ok, je passe beaucoup de temps sur cette section parce qu'il s'agit de ces points cruciaux, de vérités importantes qui sont pourtant pleins de vie et de lumière. Grand point 2. La véritable Église est le royaume de Dieu dans cet âge. Aujourd'hui, les croyants vivent la vie du royaume dans l'Église. A. À chaque fois que le Seigneur Jésus parla de l'Église, il la mentionna en relation avec le royaume, ce qui montre à quel point le royaume et l'Église sont intimement liés. Le royaume et l'Église sont intimement liés. Petit 1. Romains 14, 17 prouve que l'Église dans cet âge est le royaume de Dieu. Petit 2. Le royaume de Dieu dans 1 Corinthiens 4, 20 fait référence à la vie de l'Église, ce qui implique qu'au sens de l'autorité, l'Église dans cet âge est le royaume de Dieu. Petit 3. Le terme concitoyen dans Éphésiens 2, 19 indique que le royaume de Dieu, la sphère dans laquelle Dieu exerce son autorité. Petit 4. Ce que Paul et ses collaborateurs faisaient dans l'œuvre d'évangélisation pour l'établissement des églises, ils le faisaient pour le royaume de Dieu. Paul a dit qu'ils étaient ses collaborateurs pour le royaume de Dieu. Petit 5. Le mot « royaume » dans Apocalypse 1, 6 révèle que là où est l'Église, là est le royaume de Dieu. L'Église représente le royaume. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines raisons, cette ville surgit dans ma pensée. Je ne sais pas s'il y a déjà une église établie à Barcelone, la partie nord de l'Espagne. Mais supposons, et s'il y en a une, remercions le Seigneur, mais s'il n'y en a pas, laissons le Seigneur enlever une bientôt. Mais disons que l'église de Barcelone représente le royaume de Dieu. C'est certainement valable pour l'église d'Édimbourg, en Écosse, pour l'église de Rome, pour l'église qui est en train d'être rétablie à Zurich, pour l'église d'Helsinki, en Finlande, pour l'église de Saint-Pétersbourg, en Russie, pour l'église d'Athènes, en Grèce, où que nous soyons. Là où est l'Église, là est le royaume de Dieu. Que le Seigneur coule sans encombre dans toute l'Allemagne. Que que le Seigneur annule tout le mauvais travail que l'ennemi a fait là-bas, en Allemagne, et que le Seigneur produise, élève des chandeliers l'un après l'autre à tel et tel endroit. Cela est en train de se produire. Que cela se produise dans toute l'Europe. Des chandeliers d'or s'élèvent et brillent dans les ténèbres, étant le royaume dans chaque localité, et que chaque église représente le royaume de Dieu. B. Dans l'église, en tant que le royaume, nous sommes sous le règne, le gouvernement, la discipline et l'exercice du royaume. Nous ne sommes pas sous le règne d'aucune personne. Le règne du royaume peut passer par un frère, mais il n'est pas pour autant celui qui règne. Nous devons comprendre que dans l'Église, nous sommes sous le règne du royaume. Cela doit être bien ancré en nous, chers saints. Parfois, quelqu'un qui vient ici, peut-être, ne veut plus être ici, car il dit « Ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais que nous nous réunirions en famille d'une manière agréable. » Mais vous dites que nous sommes sous un règne. Personne ne régnera sur moi. Je me gouvernerai moi-même. Eh bien, vous pouvez penser que vous vous gouvernerez vous-même. Vous vous gouvernez vous-même. Mais ce n'est pas le cas. Donc, l'Église et le royaume, nous sommes dans l'Église. Nous sommes sous le règne du royaume. Nous sommes sous le gouvernement du royaume, nous sommes sous la discipline du royaume. Et nous sommes sous l'exercice du royaume. Il n'y a pas de place pour le laxisme ici. Pour une sorte de paresse spirituelle. Nous devons nous exercer. C'est une exigence du royaume. C'est dans le recouvrement du Seigneur, nous sommes à la fois dans le royaume et dans l'Église. Au même temps, nous sommes dans le trésor et dans la perle. Dans le trésor, c'est le royaume, et dans la perle, c'est l'Église. Je vous conseille de lire les notes de bas de page sur ces versets pour avoir plus de lumière. D. Bien que l'Église d'aujourd'hui soit le royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume, en réalité, uniquement lorsque nous vivons, marchons et avons notre être dans l'esprit et non dans notre homme naturel. En tant que citoyen avec vous, dans le royaume de Dieu, je peux simplement dire Amen à ce point. Je me rends compte avec vous que je suis dans l'Église comme le royaume de Dieu d'aujourd'hui, mais je ne suis dans la réalité du royaume que lorsque je vis dans l'Esprit. Seulement quand je marche dans l'Esprit. Seulement quand je ne vis pas dans mon homme naturel, mais dans l'esprit, et quand j'ai mon être dans l'esprit. Et donc je dois reconnaître, et ce, je crois, de manière appropriée, que je suis encore en formation du royaume pour marcher dans l'esprit, vivre dans l'esprit, avoir mon être dans l'esprit, partout, à chaque instant, dans chaque situation. Je suis toujours en formation. En formation. Parce que chaque fois, à chaque fois que je n'exerce pas mon esprit, je suis dans ma vie naturelle, d'une certaine manière. Oui, je suis toujours dans l'Église, je suis toujours dans le royaume extérieurement, mais dans cette période de temps où j'étais pas dans mon esprit, je ne suis pas dans le royaume en réalité. Et le Seigneur a placé en moi, ainsi que dans beaucoup d'entre vous, la faim et la soif de la réalité. Eux, comme ceux qui sont sous la dispensation de la Trinité divine, nous avons besoin de mener une vie du royaume dans l'Église. En grandissant et en nous développant dans la vie divine jusqu'à ce que nous arrivions à la maturité. Heureusement, nous pouvons dire que nous sommes ceux qui sont sous la dispensation de la Trinité divine. Combien nous sommes bénis dans le recouvrement du Seigneur, dans les églises locales, dans les conférences, dans les formations, dans les réunions des maisons pour la communion divine. Nous sommes sous la dispensation de la Trinité divine. Maintenant, nous devons vivre une vie du royaume dans l'Église et nous le faisons en grandissant et en nous développant dans la vie divine jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. En tant que père, j'ai vu mes propres enfants grandir et croître, et pendant qu'ils grandissaient, ils participaient à la vie familiale, assumaient des responsabilités et s'engageaient dans diverses activités, des activités qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils étaient plus petits, quand ils avaient 2 ou 7 ans. Le même principe s'applique ici. Nous sommes dans le royaume, mais toujours dans la famille, à différents âges spirituels, à différents stades. Et plus nous grandissons dans la vie divine, plus la vie divine se développe en nous. Plus nous vivons sous le règne du royaume. Et lorsque nous atteindrons la maturité, et nous y arriverons un jour, nous vivrons absolument sous le règne du royaume dans notre façon de vivre. La dernière section parle du travail de l'Église qui consiste à amener le royaume de Dieu. Grand point 3. L'Église amène le royaume. Le royaume a produit l'Église. Maintenant, l'Église amène le royaume. C'est-à-dire, l'Église amène la manifestation du royaume. Voici donc l'Église de Dieu à Berlin. Et les frères et tous les saints apprennent à vivre la vie du royaume à Berlin. Ils sont de plus en plus conscients de l'endroit où ils sont, où ils se trouvent, et de ce qu'est l'Église. Alors, la lumière brille, et l'esprit coule et conduit, et les saints se rendent compte que notre travail consiste à amener le royaume de Dieu. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier de cette manière pour amener le royaume de Dieu. Et il y aura partout sur la terre des saints qui attendront ardemment la venue du Seigneur, qui prient pour la manifestation du royaume, qui prient pour que cet âge soit terminé et que le gouvernement humain soit aboli et remplacé par le royaume manifesté sur la terre. Ils comprennent alors que c'est pour cela que nous vivons, que c'est le travail de l'Église, c'est l'œuvre de l'Église de participer à l'avènement du royaume de Dieu. Ah, l'Église fut créée dans le but d'amener le royaume. Quelle vérité merveilleuse! Combien nous avons besoin d'absorber cela, de prier à ce sujet, de l'apprendre. 1. La responsabilité de l'Église est de perpétuer la victoire de Christ et de faire venir le royaume de Dieu. Nous témoignons, nous nous tenons, nous prions concernant la victoire de Christ. La victoire a déjà été remportée. Christ a combattu l'ennemi pour la victoire. Et nous, nous combattons l'ennemi dans la victoire de Christ. Petit 2. Sur terre, le travail de l'Église consiste à faire venir le royaume de Dieu. Toute l'œuvre de l'Église est régie par le principe du royaume de Dieu. Toute l'œuvre de l'Église. Les frères, est-ce que cela vous est déjà venu à l'esprit? Peut-être que le Seigneur nous conduira à un moment donné, dans un avenir proche ou un peu plus lointain, à organiser une formation d'anciens concernant le royaume et l'Église, pour approfondir ces choses. Parce que toute l'œuvre de l'Église est régie par le principe du royaume de Dieu. Sur terre, le travail de l'Église consiste à faire venir le royaume de Dieu. J'espère que les anciens, les collaborateurs, vont chercher le Seigneur ensemble en disant « Seigneur, Seigneur, sommes-nous gouvernés par le principe du royaume de Dieu? Qu'est-ce qui nous gouverne? Si nous ne sommes pas gouvernés par le principe du royaume de Dieu, comment l'Église peut-elle participer à l'avènement du royaume de Dieu? » Petit 3. L'Église a la responsabilité d'apporter la volonté du ciel sur la terre et d'y mener à bien cette volonté. Dans Matthieu 6, 10, on voit la prière adressée au Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Sur la terre comme dans les cieux. Nous prions pour cela. Que ta volonté soit faite à Lisbonne. Que ta volonté soit faite à Paris. Dans tant d'endroits. Qu'elle soit faite sur la terre, qu'elle soit faite à Amsterdam, que ta volonté soit faite à Amsterdam, comme dans les cieux. C'est la prière pour amener la volonté des cieux sur la terre. Ensuite, Matthieu 7, 21 parle de faire la volonté du Père. Ceux qui font la volonté du Père entreront dans le royaume comme des vainqueurs. Dans Matthieu 12, 50, on voit que ceux qui font la volonté du Père sont vraiment des frères, des sœurs et des mères pour le Seigneur Jésus, comme il a dit. Point B. L'Église qui vient en existence sous le règne du ciel, grâce à sa soumission au règne céleste, prend position contre l'ennemi de Dieu. Combien nous avons besoin d'apprendre ensemble. Je crois en notre Maître, n'en avons qu'un, le Seigneur lui-même. Ou combien nous avons besoin de tous ces points de la section B. L'Église vient en existence sous le règne du ciel. Et maintenant, nous sommes soumis au règne céleste. Et donc, nous pouvons prendre position contre l'ennemi de Dieu. Nous sommes sous le règne du ciel et nous sommes soumis au règne céleste. Nous pouvons dire ceci dans cette Église. Seigneur, nous sommes ici, sous le règne du ciel, et nous prenons l'initiative d'être soumis au règne céleste. Et maintenant, dans cette réunion, nous allons prendre position contre ton ennemi. Petit 1. Pour que le royaume des cieux soit établi, il est nécessaire de mener des combats spirituels. Vous savez beaucoup mieux que moi, mieux que je ne le saurai jamais, à quel point les combats sont féroces en Europe. Je crois qu'il est exact de dire que c'est le champ de bataille le plus intense de toute la terre. Et mes chers frères, mes chers amis, qui ont vécu là-bas, qui ont été envoyés là-bas, en Europe, pour servir, ils le savent tous bien mieux que moi. Nous devons tous nous engager dans la guerre. Il est nécessaire de mener un combat spirituel, notamment par la prière et par la prédication de l'Évangile. Petit 2. La responsabilité de l'Église est de continuer le combat que Christ avait livré sur terre. L'Église doit poursuivre l'œuvre victorieuse que Christ avait menée contre Satan. Pour continuer, combien nous avons besoin d'être formés. Seigneur, combien nous devons poursuivre ton combat sur terre. Seigneur, montre-nous, forme-nous, enseigne-nous. Nous ne voulons pas seulement lire un point sur le plan. Nous voulons être ceci, Seigneur. Nous voulons faire ceci pour ta gloire, pour la honte et la défaite de ton ennemi. Continue ton œuvre victorieuse. Nous le proclamons. Continue. Nous le témoignons, nous le vivons, nous le prions. Continue ton œuvre victorieuse. C'est l'Église doit prier pour faire venir le royaume de Dieu. Petit 1 dit, le royaume ne vient pas automatiquement. S'il n'y a pas de prière, le royaume ne peut pas venir. Le royaume ne viendra pas automatiquement. S'il n'y a pas de prière, le royaume ne viendra pas. Il ne peut pas venir. Nous nous disons peut-être, nous allons nous occuper de ce que nous faisons ici, et finalement le Seigneur décidera de venir avec son royaume, et ce sera tout. Cela n'arrivera jamais. Dieu a établi le principe de la prière. Dieu dit, c'est ma volonté, c'est ce que je veux faire, mais je n'agirai pas seul. Et j'ai besoin de mon peuple sur la terre pour être d'accord avec moi sur ce sujet et prier pour que je le fasse. Alors, je le ferai sur la terre. Revenons au point C. Puissions-nous non seulement chercher d'abord le royaume de Dieu, mais aussi prier cette prière simple. Seigneur, que ton royaume vienne. Et le Seigneur le sait. D'une manière tendre et aimante, et il connaît notre être intérieur. Il sait que certains saints ne peuvent pas prier aussi hardiment. Ils sont jeunes, ils ont leur avenir devant eux, c'est souvent le cas. Oui, ils prieraient, oui Seigneur, que ton royaume vienne. Peut-être que tu pourrais attendre 40 ou 50 ans jusqu'à ce que j'accomplisse ceci ou que je devienne cela. Ce n'est pas dit ouvertement, mais le Seigneur le sait. Alors il a besoin de nous constituer avec sa pensée, son sentiment, que peu importe ce que notre âge, ce qu'est notre âge humainement ou spirituellement, nous pouvons vraiment prier. Seigneur, que ton royaume vienne sur la terre. Seigneur, mets fin à cet âge et fais venir l'âge du royaume. 2. La prière de l'Église est le moyen le plus efficace de faire obstacle à Satan. La prière de l'Église est le moyen le plus efficace de faire obstacle à Satan. Je ne suis pas un ancien de l'Église. J'honore, je respecte et je dis que j'obéis et que je suis la direction des anciens fidèles là où je suis. Je me demande simplement ce qui se passe aux États-Unis. Semaine après semaine, c'est de pire en pire. L'ennemi nous attaque sans encombre, sans personne pour l'arrêter. C'est difficile à saisir. Le Seigneur essaie-t-il de dire quelque chose à ce sujet? Peut-être il dit, j'ai besoin de la prière de l'Église. J'ai besoin d'un certain type de prière venant des églises des États-Unis. Réveillez-vous. Réveillez-vous, oui, vous devez prier pour telle ou telle chose, telle ou telle réunion, mais ce n'est pas la priorité. Priez pour faire obstacle à l'ennemi, afin d'ouvrir la voie pour que ma volonté soit faite sur la terre, dans votre ville, à Los Angeles, à Seattle, à Miami, à Philadelphie, à New York. Arrêtez l'ennemi. Ne le laissez pas agir sans aucune limite. J'agirai. J'utiliserai mon pouvoir, mon autorité lorsque vous priez la prière qui est nécessaire. 3. L'Église doit être le débouché du ciel permettant à l'autorité du ciel de s'exprimer sur la terre. L'Église doit être le débouché ou le canal de sortie. Comme au ciel, il doit y avoir un récipient dans lequel il peut couler, et en Europe, puisse-t-il avoir un canal de sortie dans de plus en plus de villes? Comme c'est merveilleux! À Paris, à Rome, s'il n'y a pas encore une église bientôt, espérons-le, à Vienne, à Athènes, à Stockholm, à Copenhague. Oh, qu'il y ait un canal de sortie, un débouché à travers les prières de l'Église. Seigneur, il y a sûrement quelque chose dans ton cœur pour le Danemark, pour la Suisse, pour la Belgique. Seigneur, et tous ces autres endroits, Seigneur, nous sommes là, entraîne-nous, forme-nous à être le canal de sortie qui permet à l'autorité du ciel de s'exprimer sur la terre. Oh, je ne sais pas ce que vous ressentez à ce sujet. J'ai moi-même été rafraîchi et inspiré par un nouvel amour et une nouvelle appréciation de la vie de l'Église. Comme nous sommes bénis de pouvoir être dans la maison de Dieu, dans sa demeure, dans sa famille, pour profiter de tels moments en famille dans le Dieu trinitaire. Mais nous sommes aussi le royaume qui participe à l'œuvre de l'Église pour amener le royaume en ouvrant la voie à l'autorité du ciel, pour qu'il soit exprimé sur la terre. Et finalement, dans les dernières minutes, petit point 4. La véritable prière est une collaboration avec Dieu pour amener son royaume sur terre et accomplir sa volonté sur terre. La prière est donc un combat spirituelle. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'Église véritable. Pas seulement une Église pratique. Oui, c'est une Église, elle est sur le terrain de l'unité, le principe est correct, mais nous voulons une Église véritable, une Église locale saturée de la réalité divine, des prières véritables. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous des prières qui ne sont pas vraiment des prières. Nous pouvons penser que c'est une prière. Nous le ressentons et nous le disons, nous le pensons et nous le planifions. Donc, nous disons et nous pensons que c'est une prière. Mais le Seigneur dirait, si nous nous ouvrons à lui, le Seigneur nous dirait, ce n'est pas une vraie prière. Ce n'est pas une prière véritable. Je ne l'écoute pas. Les prières sont un bol d'or. Il n'y a pas de bol d'or là. Je mets mon encens dans le bol d'or. Des prières véritables. Nous ne devrions pas supposer que tout ce que nous prions est véritable. Pourquoi ne pas venir au Seigneur et dire, « Seigneur, entraîne-moi, forme-moi à offrir des prières véritables. Enseigne notre groupe, notre district, notre église à s'engager dans la prière véritable comme une collaboration avec Dieu pour amener son royaume sur la terre et pour accomplir sa volonté sur la terre. La prière est un combat spirituel. Maintenant que je termine ce message, après avoir passé encore un temps précieux avec vous, et cette fois-ci, c'est uniquement possible par le biais de Zoom, mais honnêtement, dans mon cœur et dans mon esprit, je suis avec vous tous. Je me rends compte, en donnant ce message, que nous avons tous, moi y compris, nous avons tous beaucoup à apprendre. Ce message ouvre un domaine que nous devons explorer et nous nous tournons vers le Seigneur. Peut-être aurons-nous des conférences, voire des formations, pas nécessairement des formations semi-annuelles, mais des formations pour entrer dans le détail de ce plan. Parce que maintenant, nous savons quelque chose que nous ne savions pas il y a une heure et demie. Certains d'entre nous peuvent dire « Maintenant, je sais où je suis. » Quand je suis entré dans la vie de l'église de Stuttgart, je sentis que j'étais chez moi et je savais que j'y avais ma place. Maintenant, je me rends compte que je suis dans le royaume de Dieu. L'église de Stuttgart est le royaume de Dieu exprimé à Stuttgart. Et maintenant, je me rends compte d'une autre dimension et un autre aspect. Seigneur, enseigne-moi, j'apprends. Je crois que le Seigneur sourira et dira avec plaisir, je t'enseignerai et je te formerai à prier avec moi pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre et que le royaume soit manifesté sur terre. Si tu me permets de te former, alors l'âge prendra fin et je reviendrai et je régnerai sur la terre avec mes vainqueurs, mes co-rois qui ont vécu dans la réalité du royaume et comme l'Église, comme le royaume. Et maintenant, ils sont avec moi comme la manifestation du royaume sur la terre. Je crois que quelque chose de semblable est sur le cœur du Seigneur. Il est vraiment pour nous. Et nous devrions simplement nous tourner vers lui, et dire « Seigneur, forme-nous, enseigne-nous, perfectionne-nous, fais-nous grandir, fais-nous croître dans la vie jusqu'à la maturité, entraîne-nous à vivre sous l'autorité céleste. Entraîne-nous à remplir toutes les églises d'Europe de la réalité divine pour être le royaume. Seigneur, édifie-nous de façon universelle et corporative. C'est pour cela que nous sommes ici. Le royaume de Dieu a produit l'Église. Les églises où nous sommes maintenant notre travail, notre œuvre est d'amener le royaume de Dieu sur la terre dans une manifestation glorieuse. Que la volonté de Dieu soit faite et que bientôt son royaume vienne sur la terre. Amen. Merci Seigneur. Amen.